chaque matin s'éveiller en un point différent du vaste désert. Sortir de sa tente et se trouver dans la splendeur du matin vierge. Détendre ses bras, s'étirer demi nu dans l'air froid et pur, sur le sable, enrouler son turban et s'y draper, se griser de lumière et d'espace, connaître au réveil l'insouciante ivresse de seulement respirer, de seulement vivre. Pierre Loti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce mardi 16 février. Toute cette semaine, on parle du Sahara, de l'histoire du Sahara, en compagnie de Michel Pierre. Dans un instant, deuxième épisode de la série. Et puis aux alentours de 6h15, Hervé Di Rosa et Jonas Delaborte seront mes invités. Le premier dirige ce musée international des arts modestes que nous apprécions beaucoup ici à France Culture et qui se trouve à Sète. Et le second, c'est le commissaire de l'exposition Providence, fracas psychédélique en Nouvelle-Angleterre. Un autre jour est possible, c'est parti. Une traversée du Sahara avec Michel Pierre. Deuxième épisode, le Sahara dans l'Antiquité. Bonjour Michel Pierre.
Bonjour.
Qu'est-ce qui nous reste de comme trace? Des écrits, des stèles, des monuments? Comment raconter l'histoire du Sahara?
Alors, dans le Sahara stricto sensu, de la période que nous considérons avec nos séparations habituelles, l'Antiquité, nous n'avons pas directement de traces écrites. Par contre, nous avons des échos de ce qui se passe dans ce désert saharien à partir, disons, du troisième millénaire avant l'ère chrétienne. Nous avons des traces en Égypte où on voit que la sécheresse, l'aridité, les crues du Nil qui n'arrivent plus, les années de famine sont présentes, disons, entre 3000 et 2000 avant notre ère. Et on voit aussi, de ce fait, une pression des peuples du désert qui arrive vers ce qui reste encore un petit peu d'humide et le Nil, le fleuve qui est là, et dont les pharaons, de ce fait, doivent se défendre de pressions qui arrivent du sud et qui arrivent de ce qui est la Libye actuelle. Donc, on a des traces de cette vigilance en quelque sorte militaire ou d'expéditions qui vont vers ces régions, mais on a surtout des documents qui montrent chez les pharaons ou bien chez d'autres responsables de provinces égyptiennes d'absolue nécessité de lutter contre la famine. On a par exemple une stèle qui a été retrouvée près d'Assouan, où c'est un monarque, disons, de la province d'Edfou. C'est pas le pharaon, c'est un responsable qui écrit. Alors que la Haute-Égypte tout entière mourait de faim et que tous les habitants en étaient arrivés à manger leurs enfants, je fis en sorte que la mort consécutive à la famine n'advint jamais dans la province. C'est-à-dire, vous avez cette sécheresse, vous avez les récoltes qui deviennent impossibles, et vous avez des années de famine, que vous retrouvez aussi dans la Bible, hein, quand Joseph, ministre du Pharaon, dit qu'il n'y avait plus de nourriture nulle part, etc. On a à la fois sous la forme des hiéroglyphes et des inscriptions et sous la forme de ce que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, une mention véritablement historique de ce qui commence à se passer dans ce Sahara qui devient de plus en plus rétif à la présence humaine. Là, vraiment, le Sahara rentre dans l'histoire de l'écrit, en quelque sorte, par une porte un peu désastreuse qu'il n'a pas tout à fait quittée aujourd'hui, qui est celle, justement, du manque de précipitation, de l'aridité, de la sécheresse, et donc de la famine.
Et s'il fallait parler de la faune et de la flore?
Oui, on évoquait l'éléphant qui a besoin de 150 kilos de végétation par jour. Il est sûr qu'à partir du 4e, 5e... 3e millénaire, toute cette faune va descendre vers le sud, va descendre vers ce qui est aujourd'hui la savane, avec disparition bien sûr des possibilités d'élevage. Les éleveurs et leurs troupeaux vont partir vers le sud, donnant naissance peut-être à ce qu'on appelle aujourd'hui les peules. Et puis les populations résiduelles vont se rassembler à proximité des massifs, où tout massif rocheux, montagneux, donne des possibilités de précipitation qui n'existent plus ou qui n'existaient plus dans les plaines, qui deviennent de plus en plus sableuses, ou bien qui deviennent des plateaux rocheux, des règles, où toute vie devient de plus en plus difficile. Les possibilités de survivance humaine à cette échelle historique, eh bien, c'est soit à proximité des plateaux, des montagnes, des massifs, soit donc à une certaine altitude, soit dans le cours des anciens oueds ou des anciens fleuves, où vous avez encore des possibilités de culture qui existent. Mais là, le Sahara rentre dans l'histoire parce qu'on en connaît, par toute cette difficulté à vivre et à survivre à partir de cette époque.
Alors, est-ce qu'on peut dire que les peuples d'aujourd'hui, ce sont ces peuples qui étaient déjà là, les cultures étaient déjà là, et qu'ils ont résisté, qu'ils ont développé des stratégies de survie face à l'aridité ?
Oui, il y a un certain nombre de peuples qui ont dû certainement, qui étaient là à l'époque, disons, égyptienne, et dont il y a aujourd'hui encore des possibilités de survivance, en particulier chez les Toubous du Tchad, nous les évoquions, vraisemblablement aussi en milieu Touareg, peut-être également vers la Mauritanie, mais vers la Mauritanie, on voit assez bien des migrations qui remontent à la période de la conquête arabe. Mais il y a des peuples, certainement, des traces qui remontent très lointainement.
Le Sahara, les Sahariens sont-ils sédentaires ou nomades, ou il faut faire la distinction entre les deux ? Il y a les deux en même temps dans le Sahara ?
Historiquement et préhistoriquement, je dirais oui, ça a varié. C'est-à-dire que c'est comme dans toute autre partie de l'humanité ou dans d'autres lieux du globe, à partir du moment où vous avez suffisamment de nourriture pour que la société se divise, se hiérarchise, que vous avez des fonctions qui vont se différencier, si vous avez suffisamment de moyens de subsistance, vous allez aussi avoir une tendance à la sédentarisation. C'est finalement la recherche de nourriture qui va entraîner une forme de nomadisme. Et à partir du moment où le désert devient, où le Sahara devient un désert de plus en plus aride, le nomadisme est une nécessité. Les villages, les grands villages par exemple sédentaires de Tichit en Mauritanie vont être abandonnés. Quand vous n'avez plus de possibilité de cultiver régulièrement, l'habitat sédentaire devient quasiment absurde. Il faut bouger. Alors, il redeviendra par la suite et il devient possible quand vous avez les oasis, quand vous avez une économie oasienne qui va commencer à se développer avec une meilleure maîtrise de l'eau, de l'irrigation, le palmier dattier et un certain nombre d'autres cultures. Mais là, nous sommes vraiment dans l'histoire et non plus dans la préhistoire.
Alors, parlons de la préhistoire. Quelles sont les premières tribus du Sahara ?
Oh, ça, c'est un peu difficile à les connaître. Enfin, les premiers humains, comme on le disait, là, nous remonterons aux Australopithèques. Enfin, c'est extrêmement complexe et on va peut-être pas les aborder jusqu'à la période néolithique. À la période historique, dans ce que raconte, par exemple, Hérodote, si on mentionne Hérodote, notre grand géographe et historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, il évoque assez souvent le Sahara dans le livre 5e de ses histoires. Il évoque des peuples qui nous disent rien aujourd'hui, hein, quels étaient les Nazamons, par exemple, dont il parle, ou les Atlantes, sont des noms extrêmement poétiques mais un peu mystérieux. Et puis Hérodote, il nous raconte des histoires par ouï-dire, en quelque sorte. Il n'est jamais rentré dans le Sahara. Il est sans doute allé jusqu'à la ville de Cyrène, dans l'actuelle Cyrénaïque, mais il a entendu un certain nombre de choses. Il a recueilli des témoignages. Mais ce qu'il en dit dans ses textes sont assez passionnants, parce que c'est le premier à nous parler, par exemple, de la vipère des sables. Il mentionne les mirages, par exemple. Alors, pour un grec, qu'il soit d'Asie mineure ou d'ailleurs, effectivement, la notion de mirage, telle que Hérodote nous en donne une définition, c'est quelque chose qui n'existait pas. Il évoque un certain nombre de peuples aussi qui maudissent le soleil. Il mentionne, par exemple, aussi des modes d'inhumation chez certains peuples où le défunt est enterré en position fœtale, accroupi en même temps, assis, et mis dans la terre, assis, à peine mort, le cadavre est plié, mais assis. Et on a retrouvé, en termes de découvertes archéologiques, effectivement, ce type d'inhumation dans le centre du Sahara, à partir du moment où l'archéologie européenne a commencé à s'intéresser à cette partie du monde. Donc on a chez Hérodote des traces écrites qui ont été validées par l'archéologie, et c'est le premier à nous parler d'un espace qui est évidemment extrêmement mystérieux encore à l'époque. Mais on a quand même déjà des contacts entre la côte méditerranéenne et puis les territoires du centre de ce qu'on n'appelle pas encore le Sahara.
Alors, demain, on parlera de la conquête musulmane, mais s'il fallait parler des premières rencontres avec les Sahariens.
Oui, alors après Hérodote, on a un certain nombre aussi de témoignages, ne serait-ce que ceux de l'Empire romain. L'Empire romain est quand même très présent dans l'actuelle Libye, en Afrique du Nord, avec les différentes provinces, et que les Romains vont cultiver, vont développer, dans lequel ils vont trouver aussi les animaux nécessaires au jeu du cirque. Et parmi ces animaux qu'on va retrouver dans le cirque, il y aura des chameaux, par exemple. Suétone précise que dans les jeux donnés par Néron à Rome, Néron, ça l'amusait sans doute, et je pense que ça devait aussi être un peu stupéfiant pour le public, fait courir des quadriges de chameaux. Et il y a une véritable fascination du monde romain pour le chameau, enfin le dromadaire, hein, disons le chameau que les Romains ont découvert du côté de la Syrie-Palestine, et puis peu à peu qui va pénétrer, d'un point de vue, je dirais, historique, comme animal de combat, comme animal de bas, comme animal de trait, et les Romains vont avoir une forme d'intérêt et de fascination pour ce curieux animal que l'on retrouve, donc, comme on le disait, dans des courses à Rome, que l'on retrouve aussi dans d'autres endroits de l'Empire romain. Et de même, les Romains vont se défendre aussi contre ces zones du désert d'où arrivent parfois des tribus un petit peu vindicatives et qui en veulent à la prospérité de la Afrique du Nord romaine, et on va avoir aux franges du désert, jusque vers Rat, par exemple, et Radames, en Libye actuelle, des présences romaines veillant un petit peu sur la frontière, sur ce qu'on appelait le Limès. Donc là, véritablement, avec Rome, le Sahara commence, et avec Byzance par la suite, le Sahara commence à rentrer dans l'histoire.
Est-ce que le Sahara, dans son immensité, et avec tous les peuples qu'il habite, est-ce que il va devenir à un moment ou un autre de l'histoire un royaume, une civilisation, un endroit très important pour le reste de la planète?
Non, pour simplement une raison de population. Nous sommes en présence de populations moléculaires de quelques milliers ou dizaines de milliers d'habitants. Alors vous avez des territoires qui ont pu se constituer en petits royaumes, plus ou moins grands, alors plutôt dans la zone sahélienne vers le sud, proche du Niger, mais dans le Sahara stricto sensu, vous n'avez jamais de constitution d'ensemble important avec un souverain plus ou moins absolu, ou la constitution d'un territoire. Pour une raison assez simple, c'est que la survie elle est quand même, elle passe par le clan familial, elle passe par une espèce de structure nucléaire de la famille un peu étendue, mais elle ne peut pas passer par une administration importante, par une séparation où il y aurait un état ou un royaume. C'est une armée, ce sont des impôts qu'on peut prélever, c'est une frontière que l'on tient plus ou moins dans le Sahara en général, et le Sahara central en particulier. C'est pas possible. Au pire, ou au mieux, je ne sais pas. Vous pouvez avoir quelques émirats qui se sont constitués, par exemple, en Mauritanie. Vous pouvez avoir des confédérations de peuples, comme c'était le cas des Touaregs, qui se dotent d'une forme de souverain, pourrait-on dire, qu'on appelait la Ménocalme. Là, nous sommes évidemment dans l'histoire aussi. Non, on peut pas. Les conditions ne sont pas propices à l'établissement de structures étatiques, quelle qu'en soit la forme.
Merci beaucoup, Michel Pierre. On continue notre traversée du Sahara avec vous, une traversée dans le temps et dans l'espace. Demain, on parlera de la conquête musulmane. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage consacré au Sahara, paru chez Belin. Sahara, le grand récit. À demain.
À demain.
Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour.
Et pour une fois, on va parler d'une actualité culturelle qui se déroule à 7. Bonjour Hervé Di Rosa.
Bonjour.
Vous dirigez un lieu magnifique, c'est le Musée international des arts modestes, et jusqu'au 22 mai, on peut voir une exposition que je vous recommande, une exposition avec le commissaire qui est présent aussi avec nous, Jonas Delaborde, bonjour.
Bonjour.
C'est l'exposition Providence, fracas psychédélique en Nouvelle-Angleterre. Mais s'il fallait parler d'abord de ce Musée international des arts modestes, Hervé Di Rosa, qu'est-ce qu'un art modeste ?
Oh ben en fait c'est un petit clin d'œil, c'est pas un musée, c'est plutôt un laboratoire qui étudie l'interaction entre les cultures savantes, l'art contemporain, hein, puisque c'est ça qui nous préoccupe quand même aujourd'hui et depuis 15 ans au Miam, et aussi on s'intéresse à tout ce qui est toutes les cultures vernaculaires, les cultures périphériques, et on essaie aussi d'introduire un public de néophytes à la création la plus pointue. Et dans le cas de Providence, depuis quelques années, on fait une espèce de tour du monde de villes un peu particulières comme ça, qui ont une vraie culture, une vraie vie nouvelle, avec des artistes que j'ai découvert moi dans les années 2000, ces artistes issus de cette ville ou qui sont passés par cette grande école d'art à Providence, la Art and Design School of Rhode Island, Jonas vous en parlera plus tard, et qui vraiment, pour moi, ils n'ont jamais été exposés ni en France ni en Europe pour beaucoup d'entre eux. Et le Miam est là aussi pour faire découvrir des choses et aussi pour donner la chance à de nouvelles générations. C'est des artistes beaucoup plus jeunes que moi. Et Jonas Delaborde, le commissaire, est aussi beaucoup plus jeune que moi. Donc c'est un musée très transversal où on peut voir des expositions où on mélange l'art brut, l'art populaire, l'art contemporain. Et aussi où on peut découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles scènes et de nouvelles directions.
Donc ça reste dans l'avant-garde.
Toujours, mais l'avant-garde n'est peut-être pas celle qu'on voit toujours à Paris, vous voyez ce que je veux dire.
Ah ben non, alors justement, Jonas Delaborde, racontez-nous cette exposition, ces artistes, pour la plupart américains, nés dans les années 70, et peut-être pour commencer, Providence, à quoi ressemble cette ville américaine au nord de New York ?
Ah, c'est pas une ville très très belle, c'est une ville assez caractéristique, des villes de moyenne taille, dans le nord-est américain, il y a des malls, il y a des quartiers un peu à l'abandon, notamment le quartier où la plupart de ces artistes ont travaillé, qui s'appelle Olneyville, qui est un ancien quartier industriel avec des grandes, comment ça s'appelle, des anciennes manufactures, des anciennes...
Oui, des friches, quoi.
Voilà, exactement. Qu'ils ont, eux, investi à la fin des années 90, même au milieu des années 90, qu'ils ont exploré. Et donc ça ressemble un peu à ça. Il y a un vieux quartier parce que c'est une des plus vieilles villes américaines. Mais à part ce vieux quartier avec quelques demeures en bois et un dôme dont ils sont très fiers, leur mairie doit avoir le plus grand dôme je pense plus grand que celui de Washington ou quelque chose comme ça. À part ça, c'est pas une ville particulièrement.
Mais c'est pas une ville économiquement atteinte par la crise comme Détroit.
Non, 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 on n'en est pas là. Non, non, c'est une ville. Après, ce qui les a drivés économiquement à la fondation, c'était l'esclavage. Donc ça a disparu assez rapidement et ils ont dû rebondir après ça. Ça a marqué tout un imaginaire assez dur, assez brutal, assez sombre, notamment avec les auteurs de fantastique qui sont passés par là. Mais c'est pas frappé comme Détroit, c'est pas non plus flamboyant, c'est pas une ville qui va particulièrement...
Et que nous raconte cette exposition? Qu'est-ce qu'on peut y voir?
Alors on peut y voir le travail d'une quinzaine d'artistes qui sont quasiment tous passés par donc, la Rhode Island School of Design, qui est une des principales écoles d'art des États-Unis qui se trouve à Providence, qui a vu sortir plein des artistes intéressants actuels, américains. Ça aurait pu être une exposition encore plus vaste avec encore plus d'artistes parce qu'il y a vraiment toute une génération de personnes qui sont passées par là. Et c'est le travail actuel de ces artistes qui ont commencé à travailler là-bas dans les années 90.
Et qui sont connus, reconnus sur la scène américaine?
Ça dépend complètement desquels. Il y en a qui ont une reconnaissance du marché et des institutions américaines absolument totales. Il y en a qui sont... qui vivent encore dans des caravanes ou dans des maisons en carton et qui marquent sur leur fanzine « Envoyez-moi de l'argent ou de la nourriture ». Donc il y en a qui sont encore dans des situations de précarité.
Et quand vous avez fait votre choix, votre montage?
C'est assez arbitraire. Je peux
intervenir.
En fait, moi,
ça fait donc depuis les années 2000, quand j'habitais aux États-Unis, en 2005, j'avais découvert le travail à la Miami Art Basel de certains de ces artistes, dont Jim Drain, Ara Peterson, ceux qui ont fait la Biennale du Whitney en 2002 et qui ont explosé sur le marché de l'art américain à ce moment-là. Et je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui connaissent assez le sujet. Et par chance, j'ai rencontré Jonas. Jonas est un artiste et qui travaille beaucoup dans le domaine du fanzine, de l'édition, et qui a donc l'habitude de travailler avec, vous savez, c'est plus notre génération, et eux, ils travaillent avec l'Internet, etc. Et donc, ils travaillent transversalement dans le monde entier. Il avait l'habitude, certains des artistes qui sont là ont travaillé avec lui dans ses fanzines, dans ses revues, dans ses programmes, ses revues Internet ou ses revues imprimées, etc. Et donc, c'était la personne que j'ai rencontrée qui connaissait, non seulement qui connaissait le sujet, mais qui en plus connaissait les artistes personnellement. Nous y sommes allés ensemble. Moi, ça m'a beaucoup ému parce qu'on me voit en photo là sur la tombe de Lovecraft, parce que c'est la ville où a vécu, où est mort Lovecraft. Enfin, quand même un type qui a révolutionné l'écriture, pas seulement fantastique. Donc c'est une ville où d'ailleurs sa maison, là-bas, il a peu d'importance, parce que même sa maison aujourd'hui, c'est un Starbucks Coffee. Vous voyez, il n'y a pas de reconnaissance. L'Amérique est quelque chose. Et ce que je trouve à Providence, c'est que ces artistes cette sauvagerie américaine où il n'y a pas l'institution comme ici qui aide, il n'y a pas de frac, de drac, etc.
Continuent à produire.
Ils produisent et surtout, il va nous en parler, ils se sont mis en collectif et de manière très transversale en allant de l'art contemporain, de l'installation à la vidéo, en passant par la peinture, l'édition, la bande dessinée. Enfin, c'est vraiment des transversalités formidables et collectives et la musique aussi.
Alors, Jonas Delaborde, pourquoi ce titre Fracas psychédélique en Nouvelle-Angleterre?
Alors, c'était censé être un titre même plus long avant, qui s'appelait « Fracas psychédélique dans les tunnels de la Nouvelle-Angleterre ». On a trouvé ça peut-être un peu boursouflé, donc on l'a réduit. La Nouvelle-Angleterre, c'est la région des premiers colons.
Ça l'a compris, mais le fracas psychédélique?
Oh, parce que c'est des artistes qui travaillent sur la saturation. Par exemple, Matt Brinkman, qui est dessinateur, a aussi une ribambelle de projets musicaux particulièrement bruyants, d'où le fracas, et dans une espèce de multifréquence, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une addition de fréquences qui crée le bruit blanc du psychédélisme contemporain. Voilà.
Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est justement cette sauvagerie et cette une nouvelle transmission d'autre chose. C'est vrai qu'ils ont une relation avec ce qu'on a appelé le psychédélisme américain des années 50, mais uniquement au niveau visuel, parce qu'ils utilisent les codes de l'art cinétique, ils utilisent les codes couleurs, ils utilisent leur culture aussi. Leur culture et surtout, justement, dans ces tunnels, c'est quand même, ça reste underground, vous voyez, ça reste vraiment... c'est ce qu'on cherche, nous, au Miam, tout le temps, faire découvrir des artistes ici en France, pas forcément à Paris, donc à 7, et que personne n'a encore exposé à Paris. Donc on a tout le temps été un peu avant. Hein. On avait fait découvrir les artistes de Winnipeg il y a quelques années. Manuel Campo nous a fait découvrir les artistes de Manille, des Philippines. Vous voyez, des choses un peu improbables qui se passent ailleurs que chez nous, où on a toujours la même information et malheureusement toujours un peu le même genre d'artistes qu'on peut voir dans les musées et les centres d'art. Là, enfin, il y a une autre proposition. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que, vous voyez, dans le monde de l'art, aujourd'hui, il y a de moins en moins de collectifs. C'est de plus en plus d'individualité. Et là, j'ai ressenti une vraie énergie collective.
Alors, ce fracas psychédélique qui nous vient de Providence réunit donc 7 scènes d'artistes qu'on ne connaissait pas et qui sont exposés à 7 au Musée des Arts Modestes de 7. Et parmi eux, quelqu'un qu'on connaît très bien, un Français, et qui n'est pas de leur génération, Philippe Druyer. Qu'est-ce qu'il vient faire avec eux?
Alors, en fait, c'est souvent des artistes, il y en a plusieurs en tout cas, qui font aussi du comics, qui est la version américaine de la bande dessinée, et qui sont assez fans de toute une scène psychédélique française. Ils connaissent très bien Moebius, ils connaissent très bien Druyer, ils sont pas du tout étrangers à cette pratique-là de dessins assez saturés, de choses assez...
Mais je laisse de la porte. Vous voulez dire que ce sont les artistes américains eux-mêmes qui ont demandé à ce que Druyer vienne?
Non. C'est moi qui les connais, qui ai parlé avec eux et depuis un certain temps. Et je sais que ça faisait sens d'avoir quelque chose qui soit une forme de clin d'œil.
De clin d'œil ou de filiation?
Alors, je pense que peut-être dans le cas d'un ou deux, il peut y avoir une filiation. Sinon, généralement, c'est quand même des choses dont ils se sont assez éloignés. Mais par contre, c'est des choses dont ils ont été des spectateurs enthousiastes, des lecteurs enthousiastes.
Excusez-moi, il y a plus surtout Druyer aussi a été le premier illustrateur de Lovecraft. C'est lui le premier, un des premiers qui a illustré en France, en tout cas Lovecraft, dans les années 70. Et c'est un grand ami que j'admire énormément. Et je trouve qu'il avait vraiment sa place. Et c'était étonnant d'être à Providence, là, avec des jeunes de 35 ans et qui vous parlent de Philippe Druyer. Je trouvais ça formidable. Alors qu'on dit toujours que la culture française, ça intéresse personne. C'est pas vrai. Là, dans ce cas-là, on voit qu'il y a une vraie filiation, une vraie connaissance de cette expression.
Voilà, une expression à voir. Vous avez le temps. C'est jusqu'au 22 mai, mais il faut vraiment passer par cette jolie ville de Sète et voir ce très beau musée international des arts modestes. Et puisqu'on a l'extrême privilège de vous avoir ce matin, Hervé Di Rosa, à Paris, ben je vais vous demander de vous prêter vous aussi au questionnaire d'un autre jour. Allez, première question.
Quelle est votre écrivaine de prédilection? Ah ben là, aujourd'hui, je dirais Lovecraft, mais ça peut être Philip K. Dick aussi, que je relis depuis longtemps, parce que je pense que c'est deux écrivains, en tout cas anglo-saxons, qui ont bouleversé la littérature mondiale au XXe siècle.
Deuxième question, Hervé Di Rosa.
Je la tire, au hasard. Pour quel personnage de BD avez-vous le plus de sympathie? Ah, moi, il y en a deux, c'est Tiff et Tondu. Donc, on dira que je suis un petit peu...
Tiff et Tondu?
Ouais, c'était mes préférés.
Vous savez que Blush est en train de reprendre la série, hein?
Avec Monsieur Choc, là, c'est ça? Oui, mais bien sûr. Moi, vous savez, je suis resté un fan de bande dessinée. Et c'est pour ça que les artistes de Providence m'ont aussi intéressé, parce qu'ils avaient aussi cette manie et cette passion de faire aussi de la bande dessinée.
Troisième et dernière question.
Dans quel tableau célèbre aimeriez-vous vous projeter? Ah ben, on aimerait tous être dans le déjeuner sur l'herbe, non?
Et enfin, générique de l'émission par le commissaire de l'exposition Providence, fracas psychédélique en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire Jonas Delaborde.
C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, une émission de Toufik Hakem pour ceux qui se lèvent tôt et qui écoutent la bonne radio. Les lèvent pas tôt peuvent écouter ce programme en s'abonnant au podcast de l'émission, disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible a été préparé avec Anaïs Isebert, Pascaline Bonnet, Thomas Duterre et Bruno Mourlan.
Merci beaucoup, on se retrouve demain à la même heure pour continuer notre traversée du désert du Sahara avec Michel Pierre. Dans un instant, l'actualité. Bonne matinée sur France Culture, à demain.